Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour du Monde. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et vous le savez, on vous accompagne pendant tout ce mondial avec le Eurosport FC. 3 jours sur 4, c'est le FC Stream Team avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis. Et le jour restant, c'est évidemment Tour du Monde avec nos chroniqueurs pour parler des autres nations de cette Coupe du Monde. Le programme est évidemment chargé en ce lundi, puisque on démarrera l'émission avec Elton Mokolo, notre journaliste qui touche à toute l'actu de la Coupe du Monde. On parlera des surprises de ce mondial et on essayera de deviner lesquelles pourront se hisser en huitième de finale. On enchaînera ensuite avec la Belgique et la grave crise que traversent les Diables Rouges. Sacha Tavolieri nous donnera des détails croustillants sur la vie en communauté des Belges. On enchaînera ensuite avec le Brésil, un rock si solide. Thomas Goubin nous expliquera comment cette Seleção est finalement taillée pour le plus haut niveau en étant très solide derrière. On enchaînera ensuite avec l'Angleterre, Philippe Auclair, qu'on va retrouver pour nous parler des Three Lions, où situer cette Angleterre et pourquoi Phil Foden et Jack Grealish ne jouent pas, il nous donnera ses réponses. Et on terminera enfin ce Tour du Monde par évoquer le Portugal, dernière équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Julien Pereira, notre spécialiste, nous parlera évidemment de Cristiano Ronaldo, de Bruno Fernandes et de Fernando Santos. Voilà, vous connaissez le programme, alors Tour du Monde, c'est parti. Vous en avez pris l'habitude dans Tour du Monde, on accueille Elton Mokolo qui est un peu notre journaliste qui regarde un petit peu tout, il s'occupe de tout, c'est un peu notre Antoine Griezmann à nous. Salut Elton, comment ça va ?
Salut Cyril, très, très honoré d'être comparé à Antoine Griezmann, c'est quand même bon signe quand tu regardes ces deux premiers matchs lors de la Coupe du Monde.
Exactement, alors avec toi on a décidé de à chaque fois faire un petit bilan de ce mondial, des points d'étape presque de cette Coupe du Monde. Tu étais plutôt enthousiaste lors du premier numéro, est-ce que lors de ce deuxième numéro, tu es toujours aussi satisfait de ce que tu vois sur les pelouses au Qatar?
Je suis toujours aussi autant enthousiaste parce qu'on voit bien qu'à l'occasion de la deuxième journée, les équipes prennent leur destin en main parce qu'il y a des points à aller justement chercher pour se qualifier en huitième de finale. Et donc, par rapport à ça, on assiste à des matchs qui sont beaucoup plus décantés que lors du premier match, qui pouvait s'expliquer par le fait que déjà, c'est le match 1. Il y a notamment les joueurs marocains qui en avaient parlé en disant qu'ils avaient l'expérience traumatisante de 2018 et la défaite face à l'Iran, ce qui avait conditionné leur approche face à la Croatie. Et il y a surtout le fait que là, les équipes ont davantage de temps de travail, alors que sur le premier match de la Coupe du Monde, tu avais quand même une semaine de travail parce que tu étais en club auparavant.
Ouais. La semaine dernière, on avait parlé des pays asiatiques qui étaient rafraîchissants dans cette Coupe du Monde. On était en fond un petit peu déçus, en tout cas des résultats de certains pays africains. Le réveil, il est tonitruant de la part des pays africains. Alors, il y a eu le Cameroun ce lundi qui a offert un spectacle incroyable face à la Serbie. Il y a le Ghana qui a gagné. Il y a le Maroc également qui a gagné. Finalement, avoir une équipe africaine en huitième, c'est plus que probable, je pense notamment au Maroc.
Oui, notamment le Maroc, mais pour revenir sur l'Afrique, l'Afrique, avant la compétition, nourrissait justement des ambitions par rapport à cette Coupe du Monde. L'Afrique était décomplexée et par contre, il fallait le matérialiser sur le terrain. On a vu lors de la première journée, il n'y avait pas eu de victoire, il y avait eu deux buts, seulement pour le Ghana. Donc par rapport à ça, il y avait une inadéquation entre le fait de dire que tu avais des ambitions sur la Coupe du Monde et ce que tu produisais en termes de résultats. Forcé de constater que les pays africains se sont réveillés, parce qu'on parle de pays africains, j'inclus évidemment la Tunisie, tu as quand même 11 buts sur les 5 matchs lors de la deuxième journée. Donc c'est satisfaisant, tu as surtout les victoires, la victoire du Sénégal dans un premier temps, la victoire du Maroc dans un deuxième temps, et enfin, on l'a vu tout à l'heure, la victoire du Ghana.
On pourrait retrouver les 3 en 8e potentiellement. Le Sénégal a un match compliqué à négocier face à l'Équateur, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu vois cette équipe? On sait que l'Afrique court derrière une demi-finale de Coupe du Monde depuis des années maintenant. C'est un petit peu un mythe qui revient à chaque compétition. Est-ce que tu vois une de ces équipes armée pour aller aussi loin dans la compétition?
Si je devais faire un ranking, parce qu'on a quand même deux journées pour toutes les équipes africaines, je te dirais que le Maroc, de par le fait qu'ils ont affronté et la Croatie et la Belgique, est quand même bien mieux positionné que le Sénégal qui va se retrouver face à l'Équateur. L'Équateur qui a fait forte impression sur les deux premiers matchs, tandis que le Ghana va s'offrir, alors peut-être pas un remake du quart de finale 2010, mais un 16e de finale face à l'Uruguay. Donc par ordre, je te mettrai le Maroc dans un premier temps, le Ghana dans un deuxième temps et le Sénégal dans un troisième temps.
Alors, on l'a touché un petit peu du doigt, mais on voulait revenir plus en détail avec toi, Elton, sur ce mondial qui perturbe les normes attendues, on a envie de dire. C'est presque le mondial des surprises. On en a retenu 5 parmi ces deux premières journées. Évidemment, Argentine, Arabie Saoudite, qui avait été le premier séisme, Allemagne, Japon, puis Pays de Galles, Iran, équipe iranienne hyper rafraîchissante. Japon, Costa Rica, le Costa Rica qu'on avait pris 7 face à l'Espagne et qui s'est relevé face au Japon. Puis Belgique, Maroc. Ma question est toute simple, elle est très vaste. Est-ce que cette Coupe du Monde peut être la Coupe du Monde des surprises, sachant qu'il y a toujours des surprises en Coupe du Monde, mais que là, on est peut-être sur une accélération de ce phénomène-là?
Ouais, c'est une tendance qui est accentuée, et qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà, le calendrier, en ce qui concerne la Coupe du Monde, on est au mois de novembre. Donc, au niveau de la dimension athlétique, de la dimension physique, eh ben, y a des équipes qui sont au point. Et par rapport à ça, il y a des équipes, notamment de pointe, où il manque des joueurs qui sont quand même très importants. Et donc, par rapport à ça, ça a tendance à rendre cette compétition un peu plus homogène. Ensuite, il y a le fait qu'il y a les équipes, entre guillemets, moins cotées sur l'échiquier international qui travaillent. Il n'y a qu'à voir l'Arabie Saoudite, il n'y a qu'à voir la Corée du Sud, il n'y a qu'à voir le Maroc qui monte en puissance et qui peut capitaliser sur son assise défensive. Donc, tout ça contribue à rendre les choses homogènes et à faire en sorte que les équipes qui avaient une certaine avance dans les éditions précédentes, qui ont moins de temps de préparation, et ça c'est quelque chose qui est quand même très important, et ben forcément ne peuvent pas capitaliser sur ça et peuvent faire face à des déconvenues.
Alors ces surprises justement, elles entraînent aussi des déconvenues pour les gros. On a noté 4 équipes qui sont en ballotage, on va dire défavorables, même si chaque cas est un petit peu particulier. L'Argentine, deuxième du groupe C, mais qui devra se défaire de la Pologne pour se qualifier. Le Danemark, presque une surprise de les voir aussi mal dans la poule des Bleus. L'Allemagne, évidemment, et la Belgique, qui sont peut-être les deux nations les plus en danger. Est-ce que là aussi, c'était prévisible peut-être de voir ces équipes-là, et surtout celles-ci, aussi en dedans dans cette compétition pour toi?
Pour moi, il y a plusieurs cas différents, Cyril, à savoir que du côté de l'Argentine, c'est fou comme le football peut aller très très vite. L'Argentine, arrivée avec une dynamique de 36 matchs sans défaite, avait l'occasion d'égaler le record mondial de l'Italie, avait remporté la Coupe América. On avait dans l'idée qu'on avait une équipe qui, Didier Deschamps déteste ce mot, mais on avait une équipe qui avait des certitudes. Force est de constater que les certitudes, elles étaient fragiles, parce que tu as eu une défaite face à l'Arabie Saoudite au terme d'un match qui a été quand même surréaliste, parce que l'Arabie Saoudite gagne notamment grâce à un temps fort. Et on a vu à l'occasion du deuxième match face au Mexique que on est revenu à ce qui s'était passé en juin 2018 avec une équipe argentine paralysée, qui était stressée, paralysée par l'événement, et qui, après le premier but, là, on a retrouvé petit à petit une équipe argentine qui se rapprochait de ce qu'elle était capable de faire. Et clairement, à partir du moment où la dimension mentale a pris le pas sur la dimension footballistique, on a vu une équipe argentine moins souveraine. Ensuite, en ce qui concerne l'Allemagne, en ce qui concerne la Belgique, pour l'Allemagne, on est dans la continuité de ce qui se passe, notamment lors des deux dernières compétitions où la Coupe du Monde 2018 a été catastrophique. Ouais. L'Euro 2021, tu sors des poules, mais il ne faut pas oublier que tu sors des poules après un match nul rocambolesque face à la Hongrie. Du côté de la Belgique, on est clairement sur le champ du cygne du côté de la génération dorée. On le savait avant la compétition que ce serait compliqué. Pas autant à ce point, ça, il faut être quand même honnête, mais on savait que ce serait compliqué. Et enfin, on voit bien que pour la dernière équipe que j'ai oubliée,
le Danemark,
je suis un peu plus surpris, mais quand on parle du Danemark, finalement, c'est son histoire sur les dernières compétitions, parce qu'il faut pas oublier que l'Euro 2020, ok, elle va en demi-finale, Mais tout bascule à l'occasion du dernier match, parce qu'il ne faut pas oublier que le Danemark se qualifie en ayant 3 points.
Oui.
Donc par rapport à ça, on est sur des performances qui sont habituelles du côté danois en compétition. C'est une équipe qui n'est pas capable de faire 9 points. C'est une équipe qui a été limitée par son manque de talent offensif et qui fait défaut. J'ai envie de dire que Cornelius, ce n'est pas forcément Kylian Mbappé, ce n'est pas forcément Olivier Giroud. Et tout ça, c'est un impact.
Est-ce que il va y avoir des invités surprises dans ces huitièmes? On a parlé du Maroc, évidemment. Est-ce que l'Iran, potentiellement, qui affronte en plus les États-Unis, qui est une équipe un petit peu hybride, qu'on a du mal à situer, est-ce que l'Iran peut être au rendez-vous des huitièmes? Voilà. Qui est, selon toi, l'invité surprise qui va s'inviter dans ce tableau final?
Je suis convaincu qu'il y aura des invités surprises, à commencer par exemple par l'Équateur. L'Équateur qui a fait forte impression. Après, j'avais plutôt lu l'interview de Porozo qui joue du côté de Troyes avant la compétition et qui expliquait que l'Équateur était là pour remporter la Coupe du Monde. Bon, pour le coup, j'étais un peu plus
nuancé
par rapport au fait que l'Équateur allait remporter la Coupe du Monde. Mais force est de constater que c'est une équipe qui a fait forte impression. Donc moi, je vois l'Équateur aller en huitième de finale. Ensuite, l'Iran. Faut pas oublier que l'Iran, c'est une équipe qui tourne autour de ce fameux huitième de finale. Elle est quand même dans le top 20 FIFA. En Coupe du Monde 2018, elle était pas loin de passer dans une poule où il y avait quand même le Portugal et l'Espagne, excusez de peu. Donc moi, je vois ces deux équipes aller en huitième de finale.
Et ben voilà pour le bilan d'Elton. Vous le retrouverez dans chaque numéro de Tour du Monde, évidemment. On va parler maintenant, Elton, d'une équipe qu'on a évoquée tous les deux, mais on va revenir encore plus en détail avec Sacha sur la crise que traverse la Belgique. On ne pouvait pas ne pas reparler d'eux, évidemment, puisque la Belgique est en grande difficulté désormais dans ce mondial. On accueille Sacha Tavolieri, spécialiste du football belge, au lendemain de la défaite belge face au Maroc. Une surprise qui n'en est presque pas une, on a envie de dire. Sacha, le Maroc est venu avec ses armes, beaucoup d'envie, beaucoup de cœur, beaucoup de technique aussi. Et finalement, c'est presque tout ce qui a manqué à cette Belgique. C'est un petit peu l'analyse qui a été faite ces dernières heures en Belgique, j'imagine.
Il a surtout manqué des idées. Il a manqué de la construction sous pressing contre le Canada, mais il y a eu de la chance en contrepartie. Sauf que là, contre le Maroc, il a manqué des idées, il a manqué cette envie, ce sentiment de révolte. Les Italiens appellent ça la grinta, la voglia, l'envie d'aller se surpasser lorsque les difficultés ou en tout cas les matchs ne sont pas tout simplement en faveur des Diables Rouges. Voilà, c'est surtout le sentiment général après cette rencontre. Il fallait se trouver une nouvelle personnalité, et à chaque fois que la Belgique est mise en difficulté, elle retombe dans ses travers, c'est-à-dire cette incapacité à savoir se sortir justement de ce trépas pour évoluer et devenir un autre type. Un autre type d'équipe et les joueurs, bien sûr, d'autres types de footballeurs, c'est-à-dire ceux qui ont l'envie d'aller mordre dans les mollets, et il n'y avait aucune envie.
Alors, tu parlais de solidarité, justement, on venait de voir à propos un petit peu de ça, Sacha, puisque ces dernières heures, il y a eu beaucoup d'éclats du côté belge. Alors, il y a d'abord eu celle de Kevin De Bruyne qui était pré-Coupe du Monde, faut quand même le préciser, c'était avant que la compétition soit lancée auprès du Guardian, qui disait, en toute honnêteté, je pense que nous n'avons aucune chance de remporter la Coupe du Monde, nous sommes trop vieux. Ce à quoi Yann Vertonghen, ironique et presque sarcastique, juste après la défaite face au Maroc, disait, je suppose qu'on attaque mal parce qu'on est trop vieux. En fait, en lisant les différentes réactions belges, on avait l'impression que chacun s'accusait un petit peu de ce mauvais résultat. Ma question est toute simple, il vit comment ce groupe belge? Parce qu'on a parlé de Génération Dorée, mais est-ce que finalement ils s'entendent bien entre eux?
Mal, ou en tout cas de manière un petit peu dissipée. On sent qu'il y a des certains passe-droits, des groupuscules. On en parlait la dernière fois dans le match face au Canada, notamment cette espèce de clan qui peut y avoir entre Yann Vertonghen, Dries Mertens, Toby Alderweireld, etc. Roberto Martinez, qui lui-même, entre ces différents petits groupuscules, n'arrive pas à créer le sens commun de l'équipe. Et ça se ressent dans les déclarations, ça se ressent dans le jeu d'abord, mais ça se ressent aussi dans les déclarations. Personne ne serait jamais permis dans une autre sélection en plein milieu de Coupe du Monde de s'exprimer de la sorte. Bon, je reproche quand même à The Guardian d'avoir eu un petit coup de fil de la fédé anglaise pour dire mettez un petit peu hors d'état de nuire les Belges et surtout Kevin De Bruyne, en essayant de mettre un petit peu la zizanie dans le groupe des Diables Rouges, parce que forcément mettre comme ça maintenant, alors alors que c'était bien avant.
Ouais.
Ça aurait pu être réglé en amont. Roberto Martinez n'était pas du tout au courant, il faut le dire. Il a été surpris le premier de cette déclaration. Et Kevin De Bruyne n'en a cure, en fait. C'est un peu le grand souci. Le grand problème, c'est qu'en ce moment, Kevin De Bruyne s'en fiche de tout. Il s'en fiche du jeu, il s'en fiche de ses coéquipiers. Et du coup, il s'en fiche du pays. Et ça, c'est vraiment considéré comme un grand manque de respect en Belgique.
Ouais, c'est alors justement, j'allais te lancer sur le cas De Bruyne parce que c'est vrai que jusqu'à présent, sa Coupe du Monde, elle est très délicate. Il est ultra éloigné du joueur exceptionnel qu'on voit semaine après semaine à Manchester City. La RTBF, je crois, disait, titré hier, De Bruyne ne ferait pas ça avec Guardiola. Est-ce que c'est un petit peu le résumé de ce qui se trame autour de De Bruyne, à savoir qu'on l'accuse un petit peu de manquer d'envie dans ce mondial et de manquer d'envie pour défendre les Diables Rouges. Et on l'a vu avec beaucoup de signes de dépit aussi pendant les matchs.
Ce qu'on reproche à De Bruyne, c'est de demander tout et de ne rien donner en échange. En fait, à partir du moment où Roberto Martinez lui donne les clés du jeu, décide de faire de lui le dépositaire justement de toutes les ouvertures, des créations offensives de l'équipe, et que lui, en échange, il nous offre cette piètre prestation face au Maroc, c'est très compliqué. Kevin De Bruyne, statistiquement, c'est 27 ballons perdus. Il n'avait jamais fait ça depuis la France en 2018. C'est 35% tout simplement de ces ballons qui ont été perdus durant la rencontre. Il est méconnaissable. Il n'est plus du tout le joueur qu'on connaissait. Et donc forcément, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, Roberto Martinez a voulu être gentil avec lui, le cajoler à la Guardiola, mais visiblement, il se prend plus fort que la nation. On a un peu l'impression qu'il y a vraiment cette difficulté à comprendre le rôle qui est le sien et avec humilité endosser cette âme de leader, ou alors tout simplement se comprendre dans un collectif et essayer d'assumer sa position en tant que ne serait-ce que même équipier. Il y a chez Kevin De Bruyne un espèce de truc où on avait l'impression qu'il était venu un petit peu en touriste, ou en tout cas en 10+1. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas cette volonté de Kevin De Bruyne de s'insérer dans le groupe. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment très triste parce que c'est lui qui peut, encore une fois, nous faire la différence contre la Croatie.
Ma question, elle est très simple, la suivante, Sacha, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'implosion, tout simplement, en cas de mauvais résultats et d'élimination? Est-ce que on a parlé, donc, encore une fois, de cette génération dorée. Là, on est sûr de faire un trait là-dessus si d'aventure la Belgique est éliminée, et il va y avoir des règlements de compte dans tous les sens. C'est un scénario qui est possible?
C'est un scénario qui est tout à fait probable, en effet. Après, Roberto Martinez l'a concédé aujourd'hui à nos confrères belges de la RTBF. Oui, il y a des tensions dans le groupe. Je vais tout faire pour essayer de résoudre ces problèmes dans les derniers jours, pour retrouver un petit peu d'amusement. On sait par exemple qu'ils ont pu renouer le contact avec leur famille et avec leurs proches après le match. Ça leur a fait du bien.
Ouais.
L'idée, c'est vraiment de se remettre dans une espèce de en disant, ok les gars, là on joue une finale, c'est notre finale, quoi qu'il arrive. Après, on se voit tellement mort que là, c'est même pour notre honneur qu'on joue. On joue pour l'orgueil, on joue pour autre chose que en fait simplement une prestation en Coupe du Monde. On joue pour être nous-mêmes, on joue pour que les Belges qui nous regardent soient à nouveau fiers de nous, et pour que notre nation ne soit pas salie, parce que c'est de ça dont il est question.
Ouais.
Et après, par la suite, on essaye d'avancer, et effectivement, on voit ce qui peut arriver. Mais voilà, c'est effectivement avec un certain pessimisme que je te dis ça, parce que tous les indicateurs précédent à ce que Roberto Martinez essaye de mettre en place ne sont pas bons, et il est le premier fautif de certains choix sportifs qui n'ont pas été bons dans le match. Voilà. Après, il y a peut-être aussi, comme je reviens sur ce sentiment de révolte, voilà, il y a peut-être aussi un problème au niveau des cadres de l'équipe. Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde.
Ouais.
Il fait une faute sur le but. Voilà, il fait une faute sur le but, il ne défend pas à son premier poteau contre le Maroc. Je pense que ce type d'arrêt au Real Madrid, il les fait. Chez les Diables, il ne les fait pas. Il y a une forme aussi de résilience, pas d'engueulade, rien. Un calme, une grosse frustration, mais interne. Voilà, cette équipe avait besoin d'imploser pour aller mieux. Et puis, je reviens simplement à une petite digression sur la nouvelle génération. Il est temps. Il est temps, il faut changer des choses, il faut tout changer. Selon moi, vraiment, il est temps de dire au revoir à cette génération, même s'il y a beaucoup de très bons joueurs, etc. Il faut bâtir sur base de nouveaux, comme l'avait fait Laurent Blanc à l'époque, après Raymond Domenech, on s'en rappelle. Il faut bâtir avec d'autres types de joueurs, des nouveaux, des jeunes, quitte à ce que la construction soit plus difficile et qu'on se qualifie un peu plus, je dirais, avec un peu plus de mal, plus péniblement pour l'Euro 2024 et le Mondial ensuite en 2026 qui suivra. Mais faut le faire parce que en fait c'est le chemin naturel d'une petite nation qui doit se renouveler. En fait, c'est tout à fait naturel. On a énormément de qualité, on a des joueurs à très haut potentiel qui vont encore devenir meilleurs au fil du temps. On n'aura plus de Kevin De Bruyne certainement ou d'Eden Hazard, mais on va avoir un peu plus une ossature collective plus cohérente, un petit peu comme le Danemark, un petit peu comme les Pays-Bas qui sont nos voisins, sur lesquels on s'appuie beaucoup pour justement se comparer et être encore meilleur. Voilà, en tant que directeur technique national, Roberto Martinez fait un travail de progression sur le niveau global de notre pays qui est très bon au niveau du professionnalisme, au niveau des clubs, etc. Mais attention, en tant que sélectionneur, il a beaucoup de failles et il faut les souligner aussi, il devra payer les conséquences de ses actes.
Dernier petit mot peut-être, Sacha, sur l'ambiance autour de cette équipe. Est-ce que l'opinion publique, tu as l'air un petit peu remonté pour ne rien cacher à nos auditeurs, est-ce que l'opinion publique est dans le même état que toi, à savoir reprocher beaucoup, peut-être ce différentiel au cadre, à savoir que Courtois, il est éblouissant avec le Real, mais peut-être un peu moins irréprochable avec les Diables Rouges. Pareil pour De Bruyne, Hazard c'est encore un autre cas. On est sur la même tonalité dans l'opinion publique belge?
Ben, il faut savoir que même les analystes les plus, polissés aujourd'hui, ils vont justement de leurs analyses. Et lorsqu'il était bon toujours de tempérer, aujourd'hui, il est bon de dire les vérités. Et on a un peu l'impression que ça soulage d'un poids toute une série de paroles qui étaient pensées mais jamais dites. Et là, effectivement, le peuple belge a grondé de colère. Il a grondé de colère parce qu'aujourd'hui, il se rend compte qu'on a un petit peu joué avec cette génération, qu'il y a des conséquences aussi à ça, et que peut-être que la Belgique aurait pu mieux faire que ce qu'elle a fait. Donc forcément, il y a beaucoup de regrets. Et quand on laisse des regrets, forcément, ça amène des discussions, des polémiques, et forcément un petit peu de rage. Voilà.
Et ben voilà pour les coulisses autour de cette équipe belge qui jouera donc sa qualification pour les huitièmes de finale dès jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup, Sacha. Et nous, on va continuer ce tour du monde. De la Belgique à l'Amérique latine, la promesse de Tour du Monde est tenue. On retrouve Thomas Goubin, notre spécialiste Amérique du Sud. Salut Thomas. Alors, on sort à l'instant d'une défaite frustrante de l'Uruguay, mais on voudrait revenir d'abord sur la victoire du Brésil, le favori qui s'assume. Victoire 1-0, la plus petite des marques. Et finalement, un Brésil qu'on attendait tout feu tout flamme et qui est potentiellement l'équipe la plus sérieuse défensivement dans ce mondial.
Salut Cyril. C'est vrai que pour le Brésil, comme contre la Serbie, ça a été assez poussif. Une des grandes interrogations, c'était de savoir comment ils allaient s'adapter, notamment à l'absence de Neymar. On a vu qu'ils ont eu du mal, notamment Lucas Paqueta qui est sorti dès la mi-temps et qu'on attendait un peu dans le rôle de Neymar, de créateur. Et on a pu avoir confirmation finalement que la force de cette équipe, malgré un potentiel offensif énorme, c'est surtout sa défense. Aucun tir cadré encore
concédé.
Après, comme bémol, je dirais quand même que la Suisse a eu des situations, on les a très mal exploitées. Si la Suisse avait mieux exploité ces situations, le Brésil aurait au moins concédé un tir. Et peut-être même un but. Après, avec Tite, le sélectionneur, lui, depuis qu'il est là, il a voulu reconstruire un peu par l'arrière le Brésil, en laissant les attaquants librement s'exprimer. Et c'est vrai que derrière, c'est costaud. Mais aussi, ça manque de fantaisie, notamment, je pense, aux latéraux.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que quand on voit l'effectif brésilien avec toute cette armada de joueurs offensifs, on pourrait s'attendre à un jeu un petit peu plus léché. C'est très cadré. On a vu des heatmaps circuler sur les réseaux avec des latéraux qui franchissent quasiment jamais la ligne médiane. C'est ça le style Tite. On sait depuis qu'il est arrivé, il s'est évertué, tu l'as rappelé, à prendre le moins de buts possible. Je crois qu'il est à moins de 0,4 buts encaissés par match. Ça dit tout peut-être de ce Brésil qui sera davantage compliqué à prendre à défaut que plutôt tout flamme devant.
Titi, en fait, c'est un Brésilien du Rio Grande do Sul, c'est-à-dire c'est la région qui est frontalière avec l'Uruguay. C'est la région aussi d'où vient Dunga.
Ok. On voit l'affiliation.
Voilà, tout à fait. Et en fait, c'est une région où on aime plus le jeu âpre et pas trop, on n'est pas trop amateur de Joga Bonito. Lui, il a fait ses classes notamment au Grêmio Porto Alegre, un des deux grands clubs de la grande ville du Rio Grande do Sul. Et clairement, c'est sa formation un peu intellectuelle, tactique, de vouloir d'abord assurer simplement que son équipe ne prenne pas de but. Après, ça n'a pas empêché le Brésil, à certaines époques, sur certains matchs, depuis le début de son mandat, d'être assez brillant. Et on a vu en fin de match que c'est un peu, ça s'est un peu quand même, voilà, un peu débridé. Après, même dans ses choix d'attaque, qu'on le voit miser sur Richarlison, là, on voit clairement que, voilà, lui, on peut imaginer qu'il aime beaucoup son côté pugnace, ce côté combatif. Mais aujourd'hui, Richarlison, malgré son doublé contre la Serbie, pour moi, il a vraiment pénalisé son équipe. Il y a notamment deux grandes situations en première mi-temps où son manque de justesse technique, voilà, empêche le Brésil d'ouvrir le score. Et on a vu qu'une fois que le Brésil ouvre le score, l'équipe a l'air quasiment injouable.
On le sait, ça fait 20 ans que le Brésil court derrière ce titre et ce titre mondial. Est-ce que ce jeu qui n'est pas forcément flamboyant contente au pays ou est-ce qu'il y a des critiques autour de Tite? Est-ce que l'objectif, entre guillemets, est trop important pour faire de la fine bouche avec ce jeu qui peut être décevant compte tenu de l'armada qu'a Tite à sa disposition?
Au Brésil, il y a un certain désamour auprès de la sélection, mais ce n'est pas forcément lié à Tite, c'est plutôt lié à la politisation de l'équipe. Après, forcément, là, le jeu qu'il propose doit être assez frustrant, qu'on voit que Casemiro a été le meilleur Brésilien aujourd'hui, donc un joueur exceptionnel, mais qu'on parle du Brésil, on n'imagine pas que c'est lui qui va être mis en avant à la fin d'une rencontre. Donc j'imagine qu'il y a une certaine frustration. Après, évidemment, s'ils ont le sixième titre, on oubliera tout.
Oui, bon de toute façon, c'est un petit peu la même problématique pour d'autres nations sud-américaines. On parlait du géant brésilien, on va basculer sur l'Argentine, si tu veux. Thomas, qui a vécu un tsunami d'émotions face au Mexique, cette libération face à Lionel Messi. Pour ne rien vous cacher, on a préparé un article sur Eurosport.fr sur la gestion émotionnelle de cette équipe. Est-ce que ces Argentins ne sont pas trop émotifs, Thomas. Dans ces conditions-là, on a l'impression qu'ils ont été paralysés par l'enjeu et qu'après, une fois que Messi avait marqué, ça a été trop compliqué à gérer émotionnellement. On a vu notamment Pablo Aimar fondre en larmes sur le banc, alors que c'est censé être l'adjoint de Scaloni. Et même Scaloni était très ému de cette tension du match.
Ouais, d'ailleurs, Scaloni, il est revenu là-dessus justement
Ouais.
en conférence de presse ensuite, et ça me paraît très intéressant ce qu'il a dit. Scaloni a clairement dit qu'il y avait trop d'enjeux autour de cette sélection en Argentine, qu'on faisait peser un poids énorme sur les épaules des footballeurs, que le foot, ce n'était pas que du foot en Argentine, ça c'est le cas depuis longtemps,
Ouais.
mais visiblement ces joueurs-là ont du mal à assumer cette pression. Et en disant ça, Scaloni, bon, il a clairement dévoilé le fait que son équipe, ses joueurs, étaient inhibés. Et c'est vrai que lors de la première mi-temps, moi, j'ai vu des Argentins quasiment terrorisés.
Ouais, c'était quasiment les mêmes qu'en 2018. Alors on faisait le même constat lors de la dernière émission, mais plus d'un point de vue tactique. Là, on a eu l'impression que le fait d'être dos au mur et de devoir se sublimer, ça les a complètement paralysés. J'imagine que là aussi, le fait de savoir que c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi n'aide pas à se débrider.
Non, absolument. Il y a cet enjeu qui est énorme. On sent bien quoi, que le groupe, Messi, c'est le leader du groupe,
Ouais.
mais que le groupe est vraiment à son service, veut lui offrir cette Coupe du Monde. Et aussi en Argentine, il faut dire aussi, il y a peut-être aussi le fantôme de 2002 qui rôdait, qui a été un vrai traumatisme quand l'Argentine s'est fait sortir au premier tour en
Ouais.
arrivant comme favorite. Là, cette fois, elle n'arrive pas comme favorite, mais elle arrivait quand même dans l'habit d'une équipe qui a le potentiel pour remporter la Coupe du Monde. Et pour le moment, c'est une équipe qui n'a aucune certitude. Tu as utilisé le mot libération, c'est vrai que cette équipe est plus libérée
Ouais.
par cette victoire, mais rien n'est joué. Et si
Ouais.
contre la Pologne, rien n'est assuré. Collectivement, on n'a rien vu vraiment de probant. Scaloni a fait beaucoup de changements et on n'a pas vraiment vu la différence.
Il y a une autre équipe dont on n'a pas vu grand-chose dans ce mondial. C'est le troisième Bah, peut-être la troisième formation dont on attendait beaucoup dans ce mondial, c'est l'Uruguay, battu donc par le Portugal et qui déçoit malgré des armes offensives intéressantes sur le papier. Comment tu vois cette équipe uruguayenne? Alors évidemment, on a toujours cette grinta si caractéristique, mais dans l'utilisation du ballon, c'est beaucoup plus décevant que les équipes passées.
Ouais, c'est vrai qu'on a vu une Uruguay assez conservatrice, notamment aujourd'hui. Le sélectionneur Diego Alonso, qui est assez jeune, a pris la suite du maestro Tavares, qui était voilà, une institution qui était là depuis 2006, qui était critiqué justement un peu pour son conservatisme. Et quand Alonso est arrivé en éliminatoire, il a osé lancer des jeunes, osé avoir un style plus offensif. Et là, on a l'impression qu'il est un peu sur la retenue. Et aujourd'hui, clairement, le plan, c'était d'arriver à 0-0, de réussir à l'emporter sur un contre. Et une fois que le Portugal a ouvert le score, on a vu une Uruguay qui s'est replacée en 4-4-2 avec des entrées intéressantes de Pellistri, de Arrascaeta. Mmh. Donc on a vu que vraiment cette équipe a un vrai potentiel offensif. Et là, je ne pense pas seulement à leurs grands avant-centres, ou à Darwin Núñez ou à Cavani. Et donc tout se jouera contre le Ghana. Mais après l'Uruguay aussi, tu parlais de la Gara, c'est une équipe qui sait souffrir.
Ouais.
Justement, contrairement à l'Argentine, ça, la pression générale, ça ne les inhibe pas. Et on peut penser que contre le Ghana, ils peuvent s'en sortir.
Dernière petite question justement sur ce match si symbolique face au Ghana. Est-ce qu'on en tire une forme de fierté en Uruguay de ce qui s'était passé avec Luis Suarez, cette main et cette qualification finalement? J'imagine que c'est un épisode qui a beaucoup marqué. C'est quelque chose dont les Uruguayens sont fiers et qui illustre très bien l'état d'esprit autour de cette équipe?
Oui, je pense que en fait, la main, il ne la voit pas comme une tricherie.
Ouais.
Il la voit comme un acte de sacrifice. Donc, ça colle aux valeurs de l'Uruguay, quoi. Du joueur, de la star, Suarez, qui se sacrifie pour son équipe et pour la faire passer au prochain tour.
Et ben voilà, vous savez un petit peu mieux les contours autour des trois grosses nations sud-américaines. On retrouvera Thomas évidemment vendredi, une fois pour décortiquer le tableau final. La promesse de Tour du Monde, c'est de continuer. Donc on passe de l'Amérique latine à l'Angleterre. Allez, c'est une équipe dont on n'a pas encore parlé dans Tour du Monde. On s'envole pour l'Angleterre où on retrouve Philippe Auclair pour nous parler des Three Lions. Salut Philippe, comment ça va dans cette compétition jusqu'à présent? So far, so good?
Écoute, on va dire ça comme ça.
Ouais.
En fait, l'Angleterre est qualifiée pour les huitièmes. On ne va pas se leurrer là-dessus. Mathématiquement, ce n'est pas encore le cas. Mais en fait, il faudrait qu'ils perdent contre les Gallois par plus de 4 buts d'écart ou plus, ce qui est assez improbable, en fait, ce qui n'arrivera pas. Donc, on peut vous annoncer d'ores et déjà que l'Angleterre est qualifiée pour les huitièmes de finale. J'ai cherché un petit peu parmi les défaites de l'équipe d'Angleterre face au Pays de Galles, si jamais il y en avait qui avaient été par ce nombre de buts. Et en fait, la réponse est que non, il n'y en a aucun.
Ouais.
C'est-à-dire que l'Angleterre devrait perdre contre le Pays de Galles, comme ils n'ont jamais perdu, pour louper cette qualification. Oui, absolument, ils sont là. Ce qui d'ailleurs est un paramètre important dans cette rencontre quand on sait l'enjeu que ça représente pour les Gallois eux-mêmes.
Absolument. On parlera un petit peu des Gallois juste après. Je voudrais qu'on parle un petit peu des Three Lions pour commencer. Qu'est-ce qu'ils disent tout simplement au pays? On sait qu'avant la compétition, Gareth Southgate était très critiqué. Tu nous en avais parlé dans Tour d'Europe.
Absolument.
Le début de compétition, alors il y a eu ce match un petit peu soporifique face aux États-Unis qui a un peu fait oublier le feu d'artifice face à l'Iran. Qu'est-ce qui se dit autour tout simplement de cette équipe d'Angleterre? Est-ce que les gens sont séduits?
Non, séduits non. Je pense qu'ils sont, comme moi et comme la plupart des observateurs, dans le flou. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre de cette équipe d'Angleterre. Okay. Contre l'Iran, c'était un match très particulier avec la blessure du gardien titulaire d'équipe d'Iran, qui est en plus de ça un joueur super important dans cette équipe. Quand on connaît également l'impact émotionnel que cette rencontre avait sur les joueurs iraniens, vu ce qui se passe dans leur propre pays, vous avez tous vu, ils sont en porte-à-faux, ils sont entre le marteau et l'enclume. Quoi qu'ils fassent, ils sont critiqués, honnis, etc. Donc ils étaient dans des conditions psychologiques qui étaient terribles et ils ont craqué. Et donc, ce qu'on a vu, c'est une équipe d'Angleterre qui, face à une équipe qui avait craqué mentalement et physiquement, qui n'était plus là, est capable de faire lorsque ces joueurs, ces attaquants peuvent s'exprimer, je dirais presque comme sur un terrain d'entraînement, face à une opposition presque de principe. Et si on leur laisse la liberté de faire ça, ils sont extraordinaires, parce qu'au niveau du potentiel offensif de cette équipe d'Angleterre, je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a la France, On est d'accord. Le Brésil, certainement. L'Argentine, à mon avis, n'est pas, même avec Messi, non. Mais elle est dans le top 3, top 4, avec l'Espagne également, qu'on voit qui est très séduisante. Ils sont dans le top 4 au niveau du potentiel offensif. Et donc, ce qu'on a vu ce soir-là contre l'Iran, c'était une expression libre, en quelque sorte, de joueurs qui pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient sur le terrain. Ensuite, on a eu ce match contre les États-Unis,
Ah ouais.
que l'Angleterre n'a toujours pas battu en Coupe du Monde. C'est donc une défaite et deux matchs nuls. Et qui était un petit peu comme ce à quoi on pouvait s'attendre, à savoir, on a vu une Angleterre plus frileuse, se demandant comment aborder cette rencontre, avec un schéma tactique qui n'était pas nécessairement celui qu'auraient choisi beaucoup d'autres. Et ça a suscité beaucoup d'interrogations, tant au niveau des choix de personnel de Gareth Southgate, que des choix justement tactiques et stratégiques face à l'adversaire contre les États-Unis. Alors bon, après ça s'est plutôt bien passé. Ils ont évité le pire, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, sauf miracle absolu pour les Gallois. Donc on va voir. Mais encore une fois, moi j'avais commencé cette compétition en me disant, on est dans le flou. On a une équipe qui a été en finale de l'Euro et qui était très convaincante dans son parcours vers la finale de l'Euro. Et on a une équipe qui, d'un autre côté, n'a pas gagné un seul match de Nations League, a perdu deux fois contre les Hongrois, y compris en Angleterre, c'était à Wolverhampton, 4-0. Qui a souffert contre l'Allemagne, qui a souffert contre l'Italie également en Nations League, et qui se retrouve relégué en zone B. Ben oui, c'est vraiment la zone B, hein, de cette compétition. Et du coup, oui, on est dans l'interrogation. On ne sait pas encore véritablement ce que vaut cette équipe d'Angleterre et ce que Gareth Southgate va faire pour l'équilibrer, parce qu'elle a besoin d'équilibre, on n'en a pas en ce moment.
Alors, pour ne rien te cacher, Philippe, entre nous, à Eurosport, on était très surpris de ne pas voir Phil Foden démarrer ces matchs-là.
Ah,
On a
ouais.
vu que Raheem Sterling était encore le titulaire du poste, sans doute aussi un petit peu pour service rendu, puisque c'est un joueur capital pour Gareth Southgate. Je vais te lire
Absolument.
L'avis de Rooney, je crois, dans The Times, qui chronique un petit peu la Coupe du Monde, et qui parle de Foden en disant, pour moi, ce serait un élément clé de mon 11 de départ si j'étais le coach de l'Angleterre. Techniquement, c'est le meilleur footballeur que l'Angleterre ait. Je pense que si vous avez un talent comme Foden, vous devez simplement le faire jouer. Est-ce que c'est une tonalité qui se développe de plus en plus en Angleterre autour du cas Phil Foden, qui a été brillantissime depuis le début de saison avec Manchester City?
C'est vrai.
Et est-ce que peut-être on a un Gareth Southgate qui est un petit peu tiraillé entre récompenser ses cadres et en tout cas leur garder une confiance intacte, je pense à Raheem Sterling, ou définitivement donner le pouvoir aux plus jeunes, à savoir Saka, Bellingham, même s'il faut donner un petit peu plus vieux, il représente une certaine jeunesse dans cette équipe des Sri Lions.
Oui, ben, y a un débat et Wayne Rooney n'est pas le seul à apporter sa contribution à ce débat. Gary Neville l'a également fait
Ok.
sur une plateforme beaucoup plus
Vaste
populaire,
encore,
entre
ouais.
guillemets, oui, plus vaste encore que celle de Wayne Rooney. C'est assez amusant d'ailleurs au passage de voir deux joueurs de Manchester United devenir les apôtres d'un joueur de Manchester City. Et puis en plus de ça, c'est pas la montée au jeu, comme disent nos amis belges, c'est une expression que j'ai décidé d'adopter maintenant, plutôt que l'entrée en jeu. Monter au jeu, c'est beaucoup mieux.
Oui.
La montée au jeu qu'il avait faite contre l'Iran était totalement convaincante. Et je dirais qu'on pourrait dire exactement la même chose de Jack Grealish au passage. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que c'est peut-être les deux joueurs les plus grands improvisateurs, entre guillemets, de cette équipe que Gareth Southgate, fidèle à sa façon de procéder, décide de ne pas faire jouer. Tu parlais de Raheem Sterling. Le problème, c'est que Raheem Sterling est un joueur, c'est un des cadres sur lesquels Southgate se repose depuis longtemps. Et de la même façon qu'on a vu, par exemple, Didier Deschamps faire confiance à des joueurs qui font partie de son encadrement depuis un bout de temps. Et généralement, ces joueurs, au passage, l'ont récompensé lorsqu'il a fait ses décisions. Gareth Southgate fait la même chose. Raheem
OK.
Sterling a été là si souvent pour sortir l'Angleterre d'un mauvais pas qu'il a décidé d'aller avec lui. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'à la place de Sterling, ce soit Phil Foden. Et je te dirais qu'en fait, c'est le débat, il va commencer véritablement après le match contre le Pays de Galles. Si ça se passe bien contre le Pays de Galles avec une l'ossature habituelle, je pense que le débat va un peu se calmer. Mais là, c'était, je dirais, l'après-match, entre guillemets, l'impact de ce match nul, franchement, qui n'était pas de belle facture contre les États-Unis, qui a fait que les gens se sont demandé, mais comment se fait-il que le joueur qui est étincelant pour Manchester City depuis le début de saison n'ait pas de place en équipe d'Angleterre? Et bon, c'est un super problème à avoir quand
Oui,
t'es
c'est
Gareth
sûr.
Southgate,
Il vaut ça que
mais
l'inverse, oui.
c'est vrai qu'il fait débat, et je crois que Grealish également va faire débat, et que maintenant, de toute façon, on va se porter aussi sur la façon dont cette équipe est organisée. Il faudra qu'on m'explique comment on préfère Avoir un 4-2-3-1 avec Mason Mount dans le rôle de numéro 10 plutôt qu'un 4-3-3 avec Phil Foden à gauche. Et ça, c'est une question que tout le monde se pose. Foden à gauche, Saka à droite, ouh là 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 là, créneau centre, Bellingham en 8 ou en 8 faux 10, ouais. Et Calvin Phillips et Declan Rice derrière, on se dit ça c'est solide. Parce que le problème d'Angleterre en ce moment, c'est le manque d'équilibre entre les lignes. Il n'y a pas d'équilibre entre ces lignes.
Ok. Bah merci, ça c'est pour l'aspect tactique. Philippe, il y a un aspect aussi très important du match qui se jouera face au Pays de Galles, c'est un aspect culturel, presque sociétal, face à ce Pays de Galles là. Qu'est-ce qui se dit simplement ces derniers jours en Angleterre autour de ce duel presque fratricide, on a envie de dire, entre les Gallois et les Anglais?
Alors, on n'a pas échappé au grand titre The Battle of Britain, qui, comme d'habitude, fait allusion, c'est souvent le cas ici dans la presse populaire, à la Seconde Guerre mondiale. Sauf que là, l'adversaire, ce n'était pas les Écossais ou les Gallois, c'était plutôt le Troisième Reich. Mais bref, c'est le genre de raccourci auquel on procède souvent ici. Je crois que ça a été on commence à en parler véritablement maintenant, mais je crois que ce qui a fait la différence, ça a été le résultat de cette équipe du Pays de Galles contre l'Iran. Et la manière avec laquelle il a été acquis, si on peut parler d'acquérir un résultat quand on perd 2-0 dans les arrêts de jeu et qu'on a son gardien expulsé. Et du coup, c'est le match de quitte ou double pour le Pays de Galles. Et d'ordinaire, ce genre de rencontre, à la différence des rencontres qu'on a contre l'Écosse, où il y a toujours le côté un petit peu lutte fratricide, voire tout simplement entre deux pays qui sont dans le même pays, mais qui d'une certaine manière ont beaucoup de mal à vivre ensemble, le Pays de Galles, ça n'a jamais été vraiment le cas. Okay. En rugby, peut-être un peu plus, mais en football, non. Cette année, c'est différent.
Okay.
Cette année, c'est différent pour beaucoup de raisons. C'est surtout pour la raison que cette équipe du Pays de Galles est une équipe qui revendique sa gallicité, sa différence culturelle, sa différence politique même, ce qui est assez inhabituel dans une Coupe du Monde.
Attention, il ne faut pas trop en dire, Philippe, hein, c'est interdit par la FIFA.
Non, 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 c'est interdit d'en parler, c'est interdit d'en parler, mais c'est une équipe du Pays de Galles qui s'identifie, par exemple, le fait que Ben Davies fasse ses conférences de presse en gallois, qu'il change le nom de l'équipe en Cymru plutôt que Pays de Galles, regarder, écouter leur hymne, regarder la vidéo qu'a faite la Fédération du Pays de Galles pour l'accompagner, et vous verrez qu'il y a des éléments identitaires très très forts et des éléments identitaires qui sont en partie en opposition ou au contraste à l'Angleterre. Et donc c'est vrai que ça va être une rencontre beaucoup plus chaude, entre guillemets, à ce point de vue, que les précédentes l'ont été. Sur le terrain, le Pays de Galles part pas du tout favori. De toute façon, tu regardes un petit peu les résultats des rencontres précédentes entre les deux équipes, c'est totalement à sens unique. Pays de Galles n'a pas gagné contre l'Angleterre depuis 1984. Même quand les choses allaient bien pour le Pays de Galles, elles vont bien en ce moment. Hein, c'est depuis que Gary Speed a repris cette équipe. Elle progresse, progresse, progresse. Mais il va y avoir un parfum très particulier autour de cette rencontre-là que personnellement, je n'ai jamais ressenti ou senti auparavant dans un duel entre les deux nations du Royaume-Uni. Je l'ai senti contre l'Écosse, contre le Pays de Galles à ce niveau-là. Jamais.
Et ben voilà, ce qu'on peut vous dire, c'est rendez-vous sur eurosport.fr puisque Philippe a écrit une chronique autour de cette équipe galloise à retrouver donc avant le match face au Pays de Galles ce mardi à 20h si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup Philippe, de toute façon on se retrouvera puisque l'Angleterre sera probablement au rendez-vous des huitièmes, on se retrouvera dans la suite de la compétition et nous on continue notre tour du monde. Et allez, on termine ce tour du monde par la dernière équipe finalement qui s'est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est le Portugal, vainqueur de l'Uruguay. On accueille Julien Pereira, spécialiste de la Seleção das Quinias et journaliste à Eurosport. J'ai bien révisé, j'ai travaillé l'accent surtout. Salut Julien. Salut. Le Portugal a donc validé son ticket pour les huitièmes de finale. Ce fut douloureux et contre le Ghana, un petit peu moins contre l'Uruguay même s'il y a eu 2-3 moments de flottement. Première question toute simple, est-ce que tu as appris des choses nouvelles quant à cette sélection portugaise sur ces deux premiers matchs ?
Absolument pas. Le Portugal s'est qualifié comme on l'attendait, c'est-à-dire à la portugaise, comme l'a dit Félix après le match contre le Ghana qui avait été très compliqué, c'est-à-dire en souffrant un petit peu sur un fil souvent, c'est pas convaincant dans le jeu, c'est toujours pas à la hauteur de ce qu'on attend de cette équipe-là et de cet effectif-là. Mais ça gagne deux matchs, ses deux premiers matchs en Coupe du Monde, c'est rare pour le Portugal. C'était arrivé en 66, le Portugal avait fini troisième avec Eusebio. C'est arrivé en 2006 avec la demi-finale perdue contre la France. Donc, mine de rien, c'est quand même une entame réussie, même si, comme je l'ai dit, c'est toujours pas à la hauteur de ce que le peuple attend.
Il y avait toujours cette question inhérente autour de Cristiano Ronaldo, qui est l'idole de tout un peuple, l'idole de tout ce pays, mais même de certains joueurs de cette sélection, mais qui continue de poser un petit peu problème dans l'animation offensive. Là encore, on a retrouvé les mêmes symptômes qu'on avait aperçus depuis plusieurs mois, à savoir quasiment une incapacité à faire jouer autour de lui, je pense déjà au Félix, des Bruno Fernandes, même s'ils ont été décisifs face à l'Uruguay, ou même un Bernardo Silva, c'est exactement le même constat là aussi.
Alors, pas exactement, en réalité, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de mieux contre l'Uruguay ce lundi soir. Ouais. Alors, c'est pas du tout à la hauteur, encore une fois, de ce qu'on peut attendre de Ronaldo. Mais on a l'impression qu'il commence à implémenter le fait que son meilleur rôle, finalement, c'est le rôle de pivot. Il est excellent quand il joue en déviation, quand il joue en une touche. C'est là qu'il accélère le jeu. Et on l'a vu contre l'Uruguay, les quelques belles occasions, les quelques belles percées qu'il y a eu, c'est quand il a joué en déviation, tout simplement. Alors, c'est certainement pour lui très réducteur de jouer ce jeu-là. Malheureusement, il y a une réalité, c'est que là où il est le plus efficace, c'est quand il joue de cette façon-là, parce qu'à côté de lui, il y a des joueurs qui sont capables de faire beaucoup plus que lui. Tu l'as dit, Bernardo Silva qui a totalement pris le jeu à son compte quand il est sorti ce lundi soir face à l'Uruguay. Bruno Fernandes, qui est tout simplement le meilleur portugais depuis plusieurs mois maintenant. Ouais. C'est lui qui marque les buts, c'est lui qui fait les buts, c'est lui qui a déjà qualifié le Portugal pour cette Coupe du Monde. C'est lui qui réussit tout depuis le début de cette Coupe du Monde aussi. Donc, il faut que Ronaldo continue à accepter qu'il n'est plus le leader technique de cette équipe-là. Il est toujours le leader moral, il est toujours le leader de vestiaire, c'est toujours le patron. Les joueurs sont toujours dédiés à Ronaldo. Mais il faut que dans le jeu, il accepte finalement de jouer ce second rôle, tout simplement.
On n'a rien appris donc sur ce Portugal, on n'a rien appris non plus de nouveau sur Fernando Santos, toujours aussi critiqué pour avoir un matos absolument ahurissant. Je vous conseille d'aller regarder la liste du Portugal parce que potentiellement c'est top 3 des effectifs de cette Coupe du Monde. On l'a dit, le Portugal est donc déjà qualifié. Il n'y a que la France et le Brésil qui est dans la même situation après les deux matchs. Est-ce que tu mets le Portugal dans cette catégorie-là ou est-ce que tu les mets encore un voire deux crans en dessous, sachant que sur ce mondial, pour l'instant, ils n'en sont qu'à 7 tirs cadrés, je crois, ce qui illustre assez bien la stérilité offensive de cette sélection.
Et je te dirais que le plus inquiétant, finalement, entre guillemets, c'est pas tant le domaine offensif, c'est plus la maîtrise. Ouais. Le Portugal n'a pas quelque chose que la France a largement, et le Brésil aussi, c'est la maîtrise, parce que c'est une donnée qu'on voit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Dès que le Portugal marque, il perd totalement le contrôle, ça s'est encore vu contre l'Uruguay, il y a des changements qui n'ont pas du tout fonctionné du côté de Fernando Santos. Et ça, c'est quelque chose dont les joueurs ont conscience, ils en parlent, ils en parlent même devant la presse, sauf qu'ils sont incapables de trouver, une, les causes, et deux, les solutions pour résoudre ce problème-là. Et ça continue de durer, et je pense que ça sera problématique forcément au bout d'un moment sur les matchs à élimination directe.
Et ben voilà pour ce petit focus sur le Portugal. Merci beaucoup Julien. C'est l'heure pour nous de refermer ce tour du monde et donc d'achever ce joli voyage à travers le globe. Vous avez rendez-vous avec le FC Stream Team ce jour, évidemment, pour parler de l'équipe de France avant le dernier match face à la Tunisie. Nous, on se retrouvera vendredi après tous les matchs et une fois qu'on connaîtra le tableau final de cette Coupe du Monde, pour évoquer les bonnes comme les mauvaises surprises. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez-nous évidemment sur toutes les plateformes d'écoute Eurosport FC. Et à bientôt.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.